Accès libre.
Bonjour tout le monde, c'est Benoît Rassette et c'est le moment surtout de se faire un 90 minutes d'accès libre. La question de la semaine, est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement, d'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité? Vous pouvez répondre, vous le savez maintenant, à la question directement sur la page de l'émission d'Accès libre en tapant le canalm.vusezvoix.com. Et on continue d'alimenter, nous, à l'émission, cette question en recevant notamment en table ronde Francis Forcier, chercheur à l'Institut de recherche et d'informatrice, aussi Serge Poulin, directeur du RUTA de Montréal, Marc-André Varin, directeur général de l'Association du transport urbain du Québec. D'autres questions aussi pour notre esprit. On parle d'un registre partagé pour le logement subventionné dans la vieille capitale avec Michel Bédard. Et cette semaine, c'est évidemment la semaine dédiée à la déficience intellectuelle. Donc, d'abord, le lancement d'un livre notamment disponible en version simplifiée, 150 mètres de l'inclusion sociale, visionnaire et bâtisseur d'une société plus juste, au même moment de l'expo d'un œil différent au Musée du Fiermonde. Ça fait beaucoup de choses à voir et à entendre. Et dans un instant, on rencontre Annick Larose, directrice générale de l'ACIS, qui va nous présenter cette fameuse 30e édition de la Semaine québécoise sur la déficience intellectuelle. Tout ça sur Canal M, la radio de Visez-Voix. Alors, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle a 30 ans. Elle est signée même avec un nouveau slogan. C'est le temps d'en parler avec Annick Larose, directrice générale de l'Association québécoise pour l'intégration sociale, l'ACIS. Bonjour, Annick Larose.
Bonjour, merci de l'invitation.
Bien, c'est un plaisir. En fait, vous êtes à l'honneur en ce moment, ou plutôt les gens que vous défendez, votre enfant aussi, parce que c'est un peu elle qui vous a amené à vous intéresser à la cause de la déficience intellectuelle. Alors, pourquoi cette semaine, on change le thème? Pourquoi le nouveau slogan, c'est « Apprendre à se connaître ».
C'est important, ben, on voulait changer parce que ça faisait quand même un certain temps qu'on était sur un autre thème, mais c'est assez similaire. Dans le fond, ça vient l'importance, dans le fond, de l'éducation.
Oui.
Apprendre, donc ce terme-là, c'est vraiment extrêmement important. Donc, dans la notion d'éducation, c'est là qu'on peut abattre des préjugés. Mm. Parce que souvent, les préjugés viennent d'une méconnaissance, donc de la réalité des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et quand on connaît une personne qui a une déficience intellectuelle, on la nomme, à ce moment-là, ce n'est plus uniquement la limitation fonctionnelle qui la définit, cette personne-là, mais c'est plutôt sa personnalité,
ouais.
C'est plutôt ce qu'elle est foncièrement. Et c'est ça qu'on veut aller chercher dans cette semaine-là, c'est que la population puisse en apprendre plus sur la déficience intellectuelle, mais en même temps aller à la rencontre d'une personne et de découvrir la richesse derrière cette personne-là, puis que dans le fond... les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont des aspirations, ont des rêves, comme vous, comme moi, comme nous tous. Il faut peut-être parfois prendre un peu plus le temps d'arpenter ces chemins de traverse-là pour pouvoir avoir accès, justement, à cette... Moi, je trouve que ils ont des trésors à l'intérieur d'eux, donc il faut connaître.
C'est ça que vous voulez faire découvrir, notamment dans cette semaine-là. Vous invitez une posture, hein, on doit rencontrer ces personnes-là plutôt que rencontrer toujours la déficience intellectuelle. C'est plus important les personnes que le mot ou la déficience. Puis j'imagine que vous déployez toutes sortes d'activités pour qu'on y arrive durant cette semaine-là.
Oui, c'est sûr que la KIS, l'organisation la fédération que je dirige, on chapeaute cette semaine-là, mais ce sont nos associations. On en a 80 associations partout au Québec qui organisent une multitude d'activités. Donc, les gens peuvent aller sur notre site déficienceintellectuelle.org et là, il y a une panoplie d'activités selon les régions dans lesquelles les gens demeurent. Mais effectivement, les gens sont assez créatifs. Il y a toutes sortes de choses. Bien, vous avez parlé justement d'un œil différent où on a fait le lancement à Montréal qui a lieu jusqu'au 18 mars. Mais il y a d'autres activités également. Donc, pour justement... susciter cette rencontre-là. C'est là que tout passe.
Et donc, on va le repointer sur notre site Internet. Rappelez-nous quand même le site web.
Déficienceintellectuelle.org.
Allez-y, peu importe où vous êtes au Québec, il y a sûrement une activité qui pourrait vous interpeller, vous intéresser. On a entendu parler de vous, ou plutôt on vous a même vu ou entendu 50 familles de personnes qui ont une déficience intellectuelle se sont réunies en septembre dernier à l'Assemblée nationale. Vous aviez fait grand bruit. En gros, ce que vous revendiquez, c'est plus d'argent. Rappelez-nous un peu cette situation, puis peut-être qu'on pourrait voir où ça en est aussi.
La situation, mais disons qu'il y a eu au printemps dernier une grogne, je vous dirais, puis elle est encore actuelle, là, de parents, de personnes qui ont une déficience intellectuelle suite au plan d'action qui a été annoncé en autisme. Et je vous rassure tout de suite, on est loin d'être contre qu'il y ait des investissements en autisme parce qu'on considère que ces personnes-là ont également besoin, des grands besoins. Mais ce qu'on dit, c'est qu'à besoins similaires, on devrait avoir une réponse similaire.
Voilà, oui.
Et malheureusement, dans les dernières années, la déficience intellectuelle a peu ou presque pas ou pas du tout d'attention politique. Donc, pour ce faire, on a voulu justement présenter une pétition à l'Assemblée nationale.
Que vous avez présentée le 21 septembre.
Oui, bien c'est ça. Ça, c'était le dépôt de la pétition, là. Et pour justement susciter un intérêt. Bon, malheureusement, on le sait, la plupart des pétitions qui sont déposées à l'Assemblée nationale ne sont pas étudiées en commission. Malheureusement, on n'a pas eu un écho favorable comme de bien d'autres. Je pense que c'est juste 12 % des pétitions qui ont un écho.
Mais ça a quand même donné l'occasion d'en parler.
Oui.
Même vous avez reçu une réponse officielle de la ministre responsable en octobre. Qu'est-ce qu'elle disait en substance?
En gros, c'est que c'est toujours la même chose. C'est qu'on nous dit on investit beaucoup d'argent, mais finalement, c'est de l'argent qui n'est pas nécessairement dédié uniquement à la déficience intellectuelle. On touche également l'autisme, on touche les troubles de comportement. Nous, ce qu'on dit, c'est que, surtout maintenant, avec la réorganisation du système de santé, on n'a plus beaucoup de voix, malheureusement. Bon, on est comme dans une mer, dans les CIS et les SUS. Donc, la déficience intellectuelle, là, j'aime un peu l'image, dire toujours que on est devenu un peu homéopathique, à dilution très, très faible.
On a la mémoire d'avoir déjà soutenu les personnes qui ont des déficiences intellectuelles.
Oui, et c'est à dilution très, très faible.
Ouais.
Donc, et on n'a pas d'écoute du tout. Il n'y a pas d'intérêt politique, parce qu'on sait quand il y a un intérêt politique, les choses peuvent changer. Donc, malheureusement, déficience intellectuelle, je pense, va falloir encore faire du bruit pour pouvoir avoir un intérêt. Et c'est sûr que présentement, on continue à faire de la pression et éventuellement, avec les élections qui s'en viennent, les parents sauront où mettre la croix, là.
Donc, que vous soyez parent de personnes qui ont une déficience intellectuelle, que vous soyez proche ou simplement interpellé, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire pour soutenir votre cause ou la revendication de meilleur financement du soutien?
Bien, c'est sûr que ça passe souvent par en parler à son député.
Ah oui?
Parce que quand le député en entend parler à moult reprises, bien là, il va amener ça un peu plus haut. Nous, on a créé j'appuie-l'ADI.ca.
Oui, il faut aller voir ça.
Donc oui, donc on alimente également, on peut s'inscrire au niveau de l'infolettre et on envoie régulièrement des lettres pour justement faire connaître aux députés, mais je dirais que c'est vraiment la base. Là.
Ouais.
Quand il y a quelque chose qui nous interpelle, il faut en parler à son député, puis c'est son rôle de député d'amener ça justement éventuellement aux oreilles de la ministre et éventuellement que ça aille au Conseil des ministres. Parce que plus ils vont dire, comment ça que ça grouille, là? Comment ça qu'il y a un mécontentement? Mais donc, c'est pour ça qu'il faut se faire entendre.
Plusieurs manières de se faire entendre. D'abord, peut-être un moyen de connaître ces personnes qui ont DI par toutes sortes d'activités au Québec. Ça, c'est possible d'en avoir connaissance en allant sur...
déficienceintellectuelle.org.
Voilà. Et si on a envie d'appuyer le financement plus adéquat pour le soutien aux personnes qui ont DI, là, c'est j'appuie-l'ADI.ca.
C'est le financement, mais c'est surtout, je vous dirais, plus en termes de mobilisation. Là, au niveau du financement, c'est sûr que nous, on a une fondation qui s'appelle Le Support.
Oui.
Donc, si vous faites du ménage de votre garde-robe et que vous voulez délester un peu les choses que vous n'utilisez pas, nous avons toujours des boîtes, le support avec un justement un cintre, ben oui, le cintre là, distinctif. Là.
Voilà. Donc, plein de moyens de vous soutenir. J'appuie-la-die.ca, aussi les collectes de vêtements pour vous aider. Merci infiniment, Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale.
Merci.
Question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
Selon l'Association québécoise de prévention du suicide, le taux de suicide chez les hommes est 2 fois plus élevé en milieu agricole que dans le reste de la population. Donc, afin de faire face à cette situation, plusieurs groupes ont proposé des solutions, notamment l'Union des producteurs agricoles. Et une de ces solutions, c'est le soutien via notamment des travailleurs, travailleuses de rang. Notamment, aujourd'hui, on reçoit Chantal Lemaurice, qui est travailleuse pour Écoute agricole Laurentide. Bonjour, Madame Maurice.
Bonjour.
Écoutez, je suis un peu... je suis souvent surpris, c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est vraiment préoccupant, le taux de suicide chez les agriculteurs, agricultrices, mais souvent agriculteurs. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu agricole, c'est un milieu stressant. C'est un métier qui est reconnu depuis longtemps comme parmi les plus stressants. Les agriculteurs travaillent de nombreuses heures, ils travaillent avec du vivant, ils font face à l'instabilité de la météo, des marchés. Aussi, c'est un métier qui est dangereux, donc la pression est forte dans les entreprises agricoles. Et puis, donc, pour faire face à cette pression-là, eh bien, ça fait une quinzaine d'années déjà qu'il y a des travailleurs de rang qui parcourent les campagnes et qui vont à la rencontre des familles agricoles, chez eux, dans leur entreprise, pour essayer justement de dépister la détresse et éviter le pire, qui est parfois le suicide, là, évidemment.
Mais vous allez quand même dans une attitude très préventive, là. Vous fonctionnez pas par signalement, vous êtes un peu une personne qui peut écouter les agriculteurs qui sont peut-être pas souvent entendus sur leur détresse, là?
Tout à fait. En fait, un des services là, d'écoute agricole, c'est vraiment d'offrir de l'écoute aux familles. Ce sont souvent des producteurs, productrices qui sont isolés, hein, parce qu'ils travaillent de nombreuses heures. Puis bon,
oui.
Donc le fait de jaser, déjà, c'est en soi, c'est souvent un soulagement. Et puis mais on travaille aussi en première ligne, dans le sens que si il y a des producteurs qui vivent vraiment des situations dramatiques,
ouais.
On peut se déplacer rapidement pour essayer de atténuer la crise là d'une certaine
ouais.
façon. Mais on soutient aussi les producteurs on les accompagne dans la recherche de solutions à leurs difficultés. Donc, avec eux, on réfléchit, on se creuse les méninges, puis on essaie de voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer, dans le fond, leur bien-être global. Donc, moi, mon rôle, c'est aussi souvent de faire le pont entre les familles agricoles et les différentes ressources aussi du milieu.
Puis ça, j'imagine que c'est pas très facile parce que souvent l'écoute ou les services psychologiques sont très orientés hein, pour des groupes en particulier. J'imagine qu'actuellement, avec les réformes en santé, ça doit être difficile d'avoir un psychologue pour un agriculteur. Là. Ça doit être...
Oui, c'est un problème, en fait. Ce qui arrive, c'est que il y a peu de professionnels de la santé qui comprennent la réalité des agriculteurs. Donc, d'où la naissance des travailleurs de rang, qui sont des gens qui ont des compétences en relation d'aide, mais
oui.
qui sont issus du milieu agricole, donc qui comprennent
ah, oui.
tous les défis qu'ils doivent relever. Et malheureusement, il n'y a pas assez de psychologues qui sont vraiment, se sont spécialisés pour cette clientèle-là. Là.
Oui, vous êtes beaucoup d'ailleurs au Québec être travailleurs, travailleuses de rang comme ça?
On est 6 pour toute la province, alors c'est vraiment très peu.
Pour à peu près quelle population? J'ai pas en tête la population agricole, ça ressemble à quoi?
Ben pour la province, je sais pas, mais pour la région des Laurentides, parce que moi je couvre les Laurentides, il y a 2100 producteurs.
Hi, quand même!
Oui, oui.
Vous êtes souvent sur la route, j'imagine.
Oui, en fait, je me promène beaucoup, oui, je suis souvent dans ma voiture, mais aussi j'interviens souvent aussi par Facebook.
Ah oui?
Oui, il y a des producteurs qui préfèrent qu'on communique de cette façon-là, parfois même par texto. Donc, tu sais, vraiment, là, on adapte l'aide selon ce que préfèrent les agriculteurs ou si, comme ça peut leur faciliter la vie le plus. Là.
Bien sûr. Et donc, on comprend là, qu'il est possible d'intervenir par écrit, par texto, tout ça, mais comment les agriculteurs, agricultrices ou les proches ou les gens qui sont conscients peut-être qu'il y a un besoin peuvent vous rejoindre? Est-ce qu'il y a un endroit précis?
Bien, en fait, le plus simple, c'est vraiment d'appeler directement sur mon téléphone cellulaire.
Ah, oui.
Oui, vraiment.
Mais il n'y a rien d'unifié, là, je veux dire, sur le site de l'UPA ou d'autres sites. On ne peut pas vous retrouver, que ce soit vous ou dans d'autres régions, les travailleuses et travailleurs de rang.
En fait, il y a l'organisme ACFA, au cœur des familles agricoles, qui est situé à Saint-Hyacinthe. C'est eux, dans le fond, qui ont fondé le principe des travailleurs de rang, qui est un peu comme inspiré de celui des travailleurs de rue. Là.
Oui, bien sûr, on entend
donc,
bien.
C'est ça. Donc, eux, ils ont un site Internet et puis les producteurs peuvent aller sur ce site-là, aller chercher de l'information sur la détresse.
On l'ajoutera.
Et les numéros de téléphone pour rejoindre les travailleurs de rang.
Donc, on va s'aider à la fois les gens qui veulent vous joindre et pour les gens qui nous écoutent en ce moment, on va l'ajouter sur canalm.vusezvoix.com, le site de l'ACFA à Saint-Hyacinthe, pour entrer en contact avec des personnes aussi utiles et importantes que vous, Mme Chantal Maurice, travailleuse de rang d'Écoute agricole Laurentide. Merci beaucoup.
Bien, ça m'a fait plaisir de vous parler de mon travail.
Ouais.
C'est très important.
C'est très important. Merci d'être là.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
Et on a avec nous celui qui nous donne très souvent des nouvelles de Québec, de la capitale. Mais cette fois-ci, en matière de logement, ça tombe bien, Michel Bédard de CKIA. Bonjour, Michel Bédard.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Content de savoir que cette revendication, qui date de quoi? De 1978?
Ou à peu près,
oui. À peu près, se réalise ou se concrétise un peu dans la vieille capitale.
Est-ce que... fait.
Oui, bon. De quoi s'agit-il exactement?
En fait, c'est la Ville de Québec, en compagnie de certains autres organismes, dont l'OMH et d'autres organisations, ont lancé la semaine dernière un portail du logement subventionné.
Mm-hmm.
En fait, c'est un projet pilote qui permet de faire une espèce de banque de tout ce qu'il y a de logement subventionné dans la Ville de Québec.
Mm-hmm.
Et nous, ce qu'on a à faire comme utilisateur, c'est de donner son nom, de s'inscrire, de voir si on est si on a droit à ce type de logement-là, et de dire le type de logement qu'on veut. Est-ce qu'on veut une coop,
mm-hmm.
tout autre type de logement, un HLM aussi. Les organisations, que ce soit l'Office de l'habitation, les coop, les HLM, qui contactent les personnes afin de leur dire, bon, ben, on a un logement qui est disponible à tel endroit.
Mm.
Est-ce que ça vous intéresse? Dans le fond, c'est
faut s'arrêter deux instants pour expliquer aux gens qu'on parle ici de logement subventionné. Ça veut dire qu'il faut répondre à certains critères, puis qu'on ne va pas payer 100% de logement, on va payer en fonction de notre revenu. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Okay.
Donc, en fait, c'est 25% du revenu du ménage.
Mm-hmm.
Évidemment, je ne prends pas la liste des critères. Par contre, sur le site Internet, c'est très bien inscrit,
c'est
la
très
liste
clair.
Des critères.
Oui. D'ailleurs, on le rappelle, le projet pilote ou ce registre-là s'intitule « Accès logement subventionné à Québec ». Ça donne alsqc.com.
C'est bien ça.
Bon.
Et donc, ça permet aux gens d'avoir un logement subventionné. Et ce qui est intéressant, c'est que, oui, on peut donner notre nom pour que les gens nous rappellent, mais on peut aussi faire une recherche individuel,
ah oui.
par secteur, par type de clientèle et aussi le mode de cohabitation. Et dans la légende des résultats de notre recherche, on voit si le logement est accessible, combien il y a de chambres qui peuvent être adaptées.
Ah oui.
Évidemment, on ne voit pas que c'est fait, mais on peut voir que ça peut être fait.
Et juste pour qu'on comprenne, là, donc, on a toute l'information dont on a besoin en ligne. Il y a certains logements, par exemple, où on ne peut pas appliquer directement, hein, parce que c'est l'Office municipal d'habitation qui s'en occupe, ou c'est un HLM, donc il y a des listes d'attente.
Évidemment, il y a des listes d'attente, comme dans toutes les sphères.
Oui. Des services publics, on va se dire ça comme
ouais.
ça.
Ouais, c'est ça.
Mais Michel Bédard, il y a par ailleurs d'autres logements auxquels on peut accéder qui ne sont pas assujettis à cette espèce de long labyrinthe-là. Là.
Oui, en fait, il y a tout ce qui est PSL, qu'on appelle dans le milieu. Ça, c'est plus spécifique aux personnes handicapées.
Oui, le programme de subvention loyer.
Oui, j'avais l'acronyme en tête, mais effectivement... le programme de subvention au loyer, ça, maintenant, ça risque de changer. Auparavant, c'était géré par le centre de réadaptation. Maintenant, ça risque d'être géré par l'Office d'habitation.
Mm-hmm.
C'est en discussion actuellement. Là. Je ne peux pas vous donner plus de détails que ça pour l'instant, mais apparemment, il y a des choses qui se trament à ce niveau-là.
OK. Ceci dit, il existe d'autres modèles là, un peu partout dans d'autres régions. À Montréal, il y en avait un aussi qui était tenu par un centre de réadaptation. Maintenant, il y a d'autres plateformes, par exemple, qui informent de ça, des plateformes virtuelles. C'est quoi l'objectif de ce projet pilote-là? Est-ce que c'est de s'implanter à Québec particulièrement ou même de faire école puis de s'implanter ailleurs?
Bien, j'imagine que ça va être pour être implanté ailleurs.
Mm-hmm.
Comme vous le disiez en début de segment, c'est un projet pilote. C'est sûr que si ça fonctionne bien, ça pourra être adapté dans différentes régions du Québec, notamment à Montréal, la Mauricie, l'Estrie, tout ça. Ça pourra être, j'imagine, adapté, mais pour l'instant, c'est un projet pilote qui a été mis en ligne principalement par la ville et par comme d'autres organismes, comme je le disais, un petit peu plus tôt.
OK. Donc, on rappelle, il est possible de se rendre sur ALSQC.com. C'est quoi vos critiques? Vous le trouvez comment, vous, ce registre-là? Est-ce qu'il est accessible universellement? Est-ce que même les gens qui nous écoutent, qui peuvent être aveugles, peuvent le fréquenter facilement?
J'ai parlé à certains experts la semaine dernière, lorsque j'en ai parlé à mon émission. Il y a des lacunes au niveau de l'accessibilité pour des personnes avec une problématique de vision.
Ah oui?
Par contre, je ne peux pas vous dire exactement lesquelles. J'ai pas fait l'analyse précise.
Okay.
Mais je sais que pour avoir parlé à certaines personnes la semaine dernière, il y a certaines lacunes au niveau principalement des contrastes de couleurs. Je vois j'ai le titre devant moi actuellement. Et au niveau des écritures, il y a une écriture noire sur un bleu poudre foncée, disons.
Seulement c'est pas esthétique, mais on se doute que c'est pas assez contrasté.
Mais effectivement, même pour moi qui n'ai pas vraiment de problème de vision, c'est difficile à lire. Là.
Bon.
Imagine pour les gens qui ont une vraie problématique de vision,
bon,
que ça doit être quand même difficile. Mais par contre, je sais que ceux qui sont en responsable du site travaillent à l'améliorer, ça c'est clair.
Donc, c'est en train de s'améliorer, tout va bien. Merci beaucoup. On salue l'initiative. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Michel Bédard, rappelons que vous êtes producteur et animateur de l'émission Les Capés sur CKIA à Québec. Merci, Michel Bédard.
Ça fait plaisir, Benoît.
C'était Accès libre avec Benoît Lassette.
Tu détestes ta jeunesse, tes beaux cheveux blonds juvéniles qui descendent comme la vie près du mouvement de tes cils. Tu détestes ceux qui, grâce à l'amour, ne sont plus les mêmes. Tu préfères dire je t'aime à grands coups de bouquet de haine. Tu n'es pas certain d'être bien, mais jamais tu ne l'avoueras. Avoir des gestes qui font rêver, c'est tout ce qui compte ici-bas. Les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir, comment fabriquer le beau en tuant quelques souvenirs. Tes amis sont bien, mais tu comprends le mal du grand savoir, que même ne pourraient goûter malgré leur force noire. Tous ensemble, vous jouerez sans malaise aux grands enfants blasés qui tanguent de la tête sur des rythmes fantomatiques saccadés. Tu repenses à tes amours, à tous ceux que tu as baisés, à quel point ils avaient l'air heureux d'avoir pu te consommer. Tu as pris un verre de trop, mais c'était pour équilibrer les sensations provoquées par tes rêveries colorées. S'étourdir est un remède facile quand l'âme a la nausée. Face aux complications répétées par la vie imposée, tu danses muet près de ton ami, celui qui sait te parler, te raisonner quand tes larmes reviennent au pas comme une armée. C'est le seul moyen que tu as pu trouver pour oublier le poids de la solitude qui revient sans cesse te hanter. Tu le sais pourquoi, mais même les mouvements dictés par ton cœur font que tu te sens abandonné au milieu de tes peurs. Crois-tu qu'un jour, malgré tout, tu seras capable d'aimer? Seul moyen possible de le savoir, c'est de recommencer. La science du cœur est un objet d'abstraction propulsé par la volonté qu'ont les gens tristes à se laisser toucher. Ça fait déjà 4 jours que tu n'as pas dormi. Dans ta tête, de la musique résonne, te réveille dans la nuit. comme si ta peine avait donné naissance à une symphonie. Est-ce là le signe annonciateur d'une prochaine folie? Tu repenses à ta grand-mère, tu dis qu'elle t'a vraiment aimé. Tu revois sa couche pleine venant tout juste de déborder. Le contraste est trop mince entre début et finalité. Mais tu te résignes sans peine devant cette fatalité. Tu regardes tes vêtements et cette image immaculée que tu projettes sans vouloir comme un jeune enfant surdoué. Tu te dis qu'un jour, c'est certain, tout ça sera démodé. Que chacun des trophées que tu portes brûlera dans l'éternité. Que ton corps devenu flasque et faible aura tout effacé. Les traces de ta jeunesse, les traces trop fragiles de l'été.
Question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
Continuez de répondre à la question sur canalm.vusezvoix.com. D'ailleurs, ça commence à faire réagir un peu. Je sais que ça peut être provoquant, là, cette idée de chercher à valoriser toujours cette inclusion, donc trouver les retombées économiques que peuvent avoir des investissements dans l'accessibilité. Mais c'est important de le faire, notamment l'ATUC, qui est responsable du transport, l'Association du transport urbain du Québec, a commandé en 2016 une enquête qui a encore très peu d'équivalent au Québec, c'est-à-dire sur cette valorisation des services pour les personnes en situation de handicap, comme le transport adapté. Donc, j'imagine que vous sourcillez, là, quand je dis valorisation, ça veut dire combien ça rapporte tel investissement. Et évidemment, on parle d'inclusion. Donc, quand on parle d'inclusion, d'habitude, on parle davantage de reconnaissance des droits. Mais aujourd'hui, on va se poser la question dans toute sa dimension et même économique. Avec qui on fait ça? Que des gens qui adorent parler d'économie et d'inclusion, c'est-à-dire Francis Fortier, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour, Francis.
Bonjour.
Avec nous aussi au téléphone, Marc-André Varin, qui est directeur général de l'Association du transport urbain du Québec, l'ATUC. Bonjour, Monsieur Varin.
Bonjour.
Et rappelons que vous avez commandé une étude. Vous ne faites pas nécessairement une évaluation économique du transport urbain, mais vous l'avez faite comme démarche en 2016.
Tout à fait, oui. Une étude qui a été réalisée en 2015 et qui a été rendue publique l'an dernier, en 2017, avec toutes sortes de données intéressantes.
On en reparlera d'ailleurs en deuxième partie de cette table ronde. Et Serge Poulin, directeur du regroupement des usagers du transport adapté de l'île de Montréal. Bonjour, Serge Poulin.
Ben, salutations, Benoît, ainsi qu'à vos auditeurs et auditrices.
Ah, bon, ben, t'aimes nos questions, c'est ce que je comprends.
Ben, tout à fait. Aucun problème avec ça.
Bon, mais alors, je suis content qu'on ait l'occasion de parler à Serge Poulin. Ça faisait un moment. Je vous interpellerai en premier, Serge. Bon, d'abord, vous êtes une personne aveugle, mais surtout, vous êtes directeur général du RUTA de Montréal, qui est un regroupement d'usagers du transport adapté. Et la question que j'aurais envie...
Et accessible de l'île de Montréal.
Et
on ne fait pas que transport adapté, on fait transport régulier aussi.
Bon, c'est vrai, on l'oublie souvent. Donc, la mise en accessibilité du transport régulier, c'est important, vous en occupez. Je vous poserais même la question d'emblée, Serge Poulin. C'est quoi l'inclusion dont on parle souvent? Comment vous la définissez, vous, comme usager, comme représentant de bon nombre d'usagers?
Mais pour nous, l'inclusion, c'est de pouvoir utiliser les programmes, les bâtiments, les services, en fait, tout ce qui est utilisé par l'ensemble de la population, de pouvoir l'utiliser et d'en vivre l'expérience d'une façon, de manière équivalente.
Équivalente, oui.
et au même moment. En fait, ce qu'on dit, c'est ça. C'est que dans l'inclusion, c'est de considérer que la personne aura toujours ses limitations, mais plus on diminue son handicap, c'est-à-dire ses obstacles sociaux, ben mon Dieu, plus elle peut exercer son devoir et droit de citoyenneté à part entière. Souvent, ce que je dis, c'est on est des citoyens de loi, mais on n'est pas nécessairement des citoyens de fait, c'est-à-dire que dans les faits, ça se traduit pas toujours par l'accessibilité universelle et l'inclusion.
Bien sûr. Puis donc, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est pas tout le monde connaît les droits. Bon. C'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire.
Mais j'ajouterais, Serge Poulin, est-ce que ça coûte de fait de l'argent d'être en situation de handicap afin d'éliminer justement ces obstacles?
Ben, souvent, ce que je te dirais, Benoît, là-dessus, c'est qu'on est porté à penser que transport adapté, ça coûte cher. De donner des aides techniques aux personnes, ça coûte cher. On est toujours porté à le voir comme ça, alors que moi, en tout cas, je suis tellement heureux de l'initiative de la TUC à ce sujet-là, parce que moi, j'ai toujours dit ça, et tout le milieu des personnes en situation de handicap dit ça. On est sûr que c'est rentable économiquement, mais on n'était pas capable trop de savoir comment, mais on a des preuves. Alors, de permettre à des gens d'être des citoyens à part entière, ça a tellement d'impact positif sur la vie. Tant au niveau du revenu, si tu veux qu'on le traite en revenu, j'ai pas de problème avec ça. Si les personnes handicapées, par exemple, ont le transport adapté, qui peuvent travailler, ils injectent de l'argent dans l'économie, ils payent leurs impôts. Ouais. Là, je te parle pas de tout l'isolement qui est brisé, puis de la santé mentale qui s'emporte beaucoup mieux, de ces personnes qu'on peut enlever des CHSLD parce que, justement, ils sont en forme socialement, puis ils peuvent travailler puis contribuer comme tout le monde. Moi, je suis tellement content de cette recherche-là.
Bon. Donc, c'est attendu. Ça, parce qu'il y avait une recherche équivalente au niveau canadien qui avait déjà été publiée, mais il n'y avait rien au niveau québécois. D'ailleurs, moi, ça m'étonne, j'ai pas pensé, on en reparlera plus tard, gardons ça en tête, mais l'enquête canadienne parle d'un plus grand impact économique que l'enquête québécoise. Mais on le met en suspens, on en reparlera de manière plus spécifique, M. Varin, si vous permettez, plus tard. Dernière question, avant de peut-être passer la parole à Francis Fortier, qui s'est intéressé aussi à l'aspect de l'inclusion versus, disons, l'économie. Est-ce que le transport adapté, c'est un des services, ou la mise en accessibilité du transport régulier, c'est un des services les plus importants pour maintenir l'inclusion ou permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap, Serge Poulin?
Mais sans faire de jeu de mots, Benoît, mais le transport, c'est le moteur, en fait, de la vie.
Oui.
Si t'es pas capable de te transporter, tu peux pas faire babette chaud, tu peux pas aller à tes rendez-vous médicaux, tu peux pas aller travailler, tu peux pas... tout y passe, tu peux pas te divertir. Alors, est-ce qui est plus important? Moi, je pense qu'ils sont tous importants, mais je pense que l'inclusion... en tout cas, c'est un, ben, comme je te dis, c'est comme le moteur, ben, c'est de pouvoir que la personne puisse se déplacer aisément et de manière sécuritaire.
Mm-hmm. Bon, et donc se déplacer de manière sécuritaire, vaquer ses occupations, peu importe lesquelles, hein, pas seulement le travail, si je comprends bien, là.
Ah non, c'est à tous les niveaux. Aller jouer au bingo pour certaines personnes, là, si tu leur donnes pas ça, ça va peut-être jouer sur leur santé mentale, puis ils vont être obligés de se médicamenter. Ouais. J'en prends un comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Nous, je pense pas qu'on est en mesure d'évaluer le motif de transport, mais la personne a besoin de briser son isolement social. Alors, si elle se valorise par le travail, tant mieux pour elle. Si elle se valorise par le bingo, c'est aussi bon pour elle. Ce qu'on dit, c'est que toutes ces choses-là permettent à cette personne-là de vivre comme un citoyen puis de participer aux activités et travail qui lui plaisent autant que possible. Et bon, d'être en mesure d'être épanoui, quoi.
L'épanouissement, l'émancipation, ça, c'est des beaux mots. Avec nous, Francis Fortier, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. On vous a convié parce que vous avez fait une étude récemment sur l'accès à la vie associative chez les personnes en situation de handicap. Donc, je ne sais pas si c'est une association de bingo, là, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'associations dans lesquelles les personnes en situation de handicap aimeraient s'impliquer. Rappelez-nous un peu, c'était quoi l'objet de votre étude, d'ailleurs, qui a été publiée l'année dernière, en 2017?
Oui, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer de voir à l'intérieur des différents groupes communautaires au Québec si les personnes en situation de handicap avaient la possibilité de participer pleinement à la vie associative. Pas simplement des organismes communautaires qui viennent en aide ou font des activités pour les personnes en situation de handicap, mais l'ensemble. Parce que, comme le disait mon collègue, C'est pas l'idée, en fait, de participer à la vie. C'est pas simplement d'aller travailler, c'est pas simplement d'aller au marché. Donc, même en 2009, la politique qui avait été faite, qui avait été mise de l'avant, la politique gouvernementale qui avait été faite, qui s'appelait « À part entière », visait justement cette dimension-là. On est 10 ans plus tard et je pense qu'il faut réfléchir où on est rendu dans cette dimension-là. Donc, ça faisait partie d'un processus de réfléchir s'il y avait vraiment un moyen d'augmenter la participation des personnes en situation de handicap.
C'est un des grands objectifs, comme vous le dites, là, des lois, mais aussi normalement des volontés très de base des personnes, là, que de participer, d'être présent dans l'ensemble social.
En fait, c'est de participer, parce que présentement, ce qu'on voit, bien, il y a beaucoup plus d'accessibilité dans les organes, bon, disons, dans tout ce qui est les établissements gouvernementaux, et également dans les centres d'achat. Mais vivre socialement, participer à la vie...
C'est pas juste un centre d'achat.
C'est pas juste un centre d'achat. Je veux bien croire que la population vieillit, mais il y a quelque chose, il faut mettre en place certains éléments. Et c'est ce que a ressorti l'étude qu'on a faite. Et je pense que ce qui ressort, qui peut être, évidemment, donner des pistes de réflexion, des pistes de solutions qui va au-delà de la dimension des organismes communautaires, c'est qu'on essaie de voir pourquoi les organismes communautaires ne pouvaient pas offrir certains accommodements.
Bien sûr.
Et on a déterminé qu'il y avait trois grandes raisons. La première raison, on s'en attendait, c'était un problème de financement. Les organismes communautaires... Donc, c'est un secret de polichinelle.
Ils ne sont pas adoptés depuis quelques années.
C'est ça. Voilà. Donc, sujet qu'on peut laisser pour un autre table ronde, voilà. Peut-être. Mais le deuxième élément, en fait, c'était que il n'y avait pas de ressources dans certaines régions. Ouais. Donc, même s'il y avait les ressources monétaires, il n'y avait pas les ressources en tant que telles, donc pas d'accès à un transport adapté ou pour faire la traduction, donc plein de choses comme ça. Donc, premier élément, et, ben, le deuxième élément, et le dernier qui, en fait, est un reflet de notre société qui, pour moi, représente vraiment, disons, le processus de production culturelle du handicap. C'est-à-dire que on a une vision des personnes handicapées plutôt qu'une vision de la situation de handicap.
Oui,
et on oublie qu'il pourrait avoir potentiellement une personne en situation de handicap qui viendrait à une activité. Et ça, c'est pratiquement le tiers des accommodements qui n'ont pas été offerts à cause de ça.
Pour ces raisons-là. Parce qu'on l'a pas anticipé, tout simplement.
On l'a juste pas anticipé.
Puis, quand on regarde, de toute façon, les types d'accommodements, quand c'est l'accessibilité à l'édifice, on s'entend que c'est permanent. Si on n'y a pas pensé, c'est vraiment long avant qu'on puisse régler la situation. Là.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a cet élément-là. Puis pour moi, ça représente vraiment un reflet de société qu'il faut justement réfléchir et qu'il faut mettre en place, qui pour moi, justement, la continuité de la politique gouvernementale de 2009, qui, ben, même pas la continuité, mais la mise en place qu'il faut accélérer.
Pour rester dans le thème, malgré tout, Francis Fortier, comment ça se calcule sur la valeur de l'inclusion? Est-ce qu'on aurait une manière d'y arriver, à votre avis?
En fait, là, je dois dire que j'ai fait un sourire en coin parce que je considère que oui, il faut le faire, mais de l'autre côté, il y a un certain danger de jouer le jeu purement économique. On peut essayer de se valoriser par la dimension du travail, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer un argumentaire pour des gens qui réfléchissent la société dans un rapport de productivisme. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui pourraient être plus productives et on essaie de les convaincre que tel dollar va rapporter à la société, et non pas à la société, va rapporter à l'économie. Et donc, là, il y a une différence à faire. Et j'ai un certain malaise à essayer de calculer et... un malaise, et en même temps, je trouve que c'est un super beau défi. C'est de mon autre côté, mon côté plus économiste ou statisticien qui parle. Il y a un super beau défi à le faire. Donc, mais il faut, je pense, prendre en considération que c'est un argumentaire parmi plein d'autres, le fait d'essayer de chiffrer la dimension de l'inclusion. Donc, c'est simplement une parcelle de qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir faire avancer la cause de l'accessibilité et en fait, de toute la logique d'universalisme de notre société, de notre arrangement urbain, de notre arrangement aussi au niveau des communications Internet. Donc, c'est très, très large tout ce qu'on peut faire et ça ne repose pas simplement sur un argument économique, à mon avis.
Mais il y a quand même un défi intéressant à relever que d'essayer de le faire, mais il ne faut pas oublier les droits quand même. On se retrouve dans quelques instants musicaux avec Marc-André Varin qui, lui, a demandé une étude pour bien jauger la valorisation du transport adapté au Québec.
She wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen.
babe, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart, but I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
Question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
On en parle à table avec Serge Poulin, directeur général du RUTA Montréal, et aussi Francis Fortier de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. En plus, on a convié Marc-André Varin, qui est directeur général de l'Association du transport urbain du Québec, l'ATUC, qui a commandé en 2016 une étude pour évaluer l'impact économique du transport adapté. Monsieur Varin, c'est quoi? Quels ont été vos constats avec cette étude-là qui prend 2013 comme appui puis qui a été publiée en 2017?
Oui, en effet, c'est à partir de données de 2013. Oui. Ces données économiques-là, naturellement, il faut se baser sur ce qui est disponible au moment où l'étude est réalisée.
Bien sûr.
Comme on le mentionnait en première partie, ça a été une tentative de comptabiliser, de valoriser, de quantifier plus précisément le transport adapté au Québec. Et on va dire tout simplement dans un contexte de relation avec les gens qui viennent financer les différents programmes qui nous permettent de mettre en œuvre des services de mobilité. Alors, pour valoriser ce qu'on a fait essentiellement, c'est l'étude tente de chiffrer tout ça.
Oui.
Dans un premier temps, de chiffrer les revenus des personnes handicapées donc ça leur permet de travailler. Quels sont les revenus qui sont générés à partir de ça pour les gens qui sont en situation de handicap. D'améliorer également, on a tenté de chiffrer l'amélioration de l'état de la santé également.
Ah oui.
Ça peut être chiffré, ça aussi.
Donc, c'est un coût social là, qu'on essaie d'évaluer, des coûts de santé de moins.
D'opportunité. Mm-hmm. Exactement.
OK.
Les gens se déplacent également pour s'éduquer, pour aller à l'université, pour aller à l'école. Alors, l'augmentation du niveau de scolarité que cela permet a une valeur également à l'économie québécoise. Et ce qui est plus difficile à chiffrer également, c'est la réduction de l'isolement social.
Oui.
Et donc, on peut le regarder directement comme ça. Ça veut dire quoi pour les personnes en situation de handicap? Mais au-delà de tout ça, en utilisant les modèles économiques qui existent, c'est de déterminer un impact économique. C'est quoi la valeur ajoutée au PIB québécois? Alors, cet exercice-là a également été fait dans le cadre de l'étude.
Oui, bien sûr, mais ceci dit, on le sait à quel point la seule mesure du PIB est contestée, ça dit à peu près rien sur le mieux-être des personnes, sauf qu'au-delà de ça, ce que vous relevez, c'est qu'essentiellement de ces 271 millions de dollars de valeur en 2013, la majorité, dans le fond, c'est lié à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Oui, en effet. Mm. Mais je ne minimiserai pas non plus la valeur ajoutée à l'économie québécoise également. Vous l'avez sûrement vu dans l'étude.
Oui.
Je ferai alentour de tout près de 100 millions de dollars également.
Oui.
Ces gens contribuent à l'économie québécoise et ça a une valeur importante et je pense qu'il faut en tenir compte également.
Puis il y a aussi toutes sortes d'emplois.
C'est très quantifié, c'est très chiffré, là,
oui.
Et ça va bien au-delà de ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a mentionné M. Fortier. Mais c'est un exercice intéressant pour pouvoir confronter le gouvernement du Québec et dire, voilà, on a besoin de financement et voilà le retour sur votre investissement. Dans le
bien
fond.
Sûr. Ben oui, mais on comprend bien aussi que c'est dans le but de faire valoir l'augmentation de l'investissement dans le transport adapté qui plafonne.
Tout à fait.
C'est
tout
ça.
À fait.
Puis là, vous le dites...
Il y a une légère bonification qui a été faite l'an dernier par le ministre Lessard.
Oui.
Une légère bonification.
Mais après plusieurs années sans augmentation.
Oui. Oui, ça a été plafonné depuis longtemps, oui. Tout à fait.
Bon, parce que, qu'on le veuille ou non, là, puis c'est votre étude qui nous l'apprend, rappelons d'ailleurs que c'est la firme Apsys qui l'a menée pour votre compte. Les demandes projetées en déplacement de transport adapté, ça veut dire le nombre de déplacements là, qui risque d'advenir dans les prochaines années. C'est immense, en fait. Vous indiquez que d'ici 2036, qui n'est pas si loin, ça va chiffrer à 8,5 millions de plus. Attendez, oui, c'est ça. Non, c'est 3,2 millions de déplacements de plus qu'en 2013, et donc au total 8,5 millions.
Ça fait, exact. 2013, ça fait du transport sur nos routes. 5,6 millions de déplacements, exact.
OK. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin aussi de justifier qu'il y a un impact positif au niveau de l'économie, parce que ça veut dire que ça va prendre beaucoup là, de minivans ou de transports adaptés ou de minibus pour déplacer ces gens-là partout au Québec.
Exactement, exactement. On se rappelle aussi qu'à peu près 20% du transport se font en minibus, mais il y en a beaucoup qui se font en taxi adapté également et en taxi régulier aussi. Mm-hmm. Mais non seulement ça, mais on parlait d'accessibilité universelle tout à l'heure aussi avec les modes de transport réguliers qui existent. Ça aussi, ça prend des investissements qui sont requis pour à la fois pour les équipements puis pour les installations, pour les adapter. Alors, il y a ça aussi là-dedans. Là.
Mm-hmm. Au-delà de ça, je vous poserai une dernière question sur votre étude. Est-ce que l'impact économique positif va demeurer? Parce que, on le disait, la plus grosse partie de l'impact économique dont vous parlez, c'est lié au fait que les gens travaillent. Mais on est dans un contexte où la population vieillit. Pour eux, leur sortie, ça va vouloir dire peut-être à faire des loisirs, s'impliquer dans leur communauté, etc. Est-ce que ça va devenir aussi intéressant rendu là pour le gouvernement?
Ben, je pense que oui. Je pense que ça partira pas entièrement rapidement. C'est sûr que ce retour sur l'investissement va peut-être être moindre dans quelques années avec le vieillissement de la population, mais il va être là quand même.
Bon. OK. Alors, on s'entend là-dessus. Serge Poulin, est-ce que vous avez envie de réagir à ce rapport-là, à ce que proposé M. Varin?
Ben en fait, moi, comme je disais en début, je félicite ce groupe-là d'avoir fait ça. Je trouve ça absolument génial. Et aussi, ce qu'on oublie peut-être de parler, quand on parle de rejet de l'économie, parce que aussi, je pensais à ce que M. Fortier disait, oui, c'est un jeu dangereux, il a tout à fait raison. Cependant, je pense qu'on avait besoin de le prouver, puis là, on est en mesure de... Ce qu'on oublie de parler, par exemple, ce que peut-être M. Varin, parce qu'évidemment, son étude est tellement grosse qu'on faut en laisser des parties, mais il y a tout le revenu injecté par les chauffeurs, soit de taxi ou de minibus, dont on n'a pas parlé là.
Ah oui.
Pour eux, c'est une somme d'emplois qui vont... un revenu qui va être réinjecté dans l'économie.
Oui.
Je vais dire, la vérité, c'est que je suis pas sûr que les compagnies de taxi seraient aussi en bonne condition s'il n'y avait pas de transport adapté. Je regarde, en tout cas, moi, je demeure sur la Rive-Sud, les gars me disent, si on n'avait pas de transport, là, il y en a bien dans nous autres qui n'auraient même plus de permis.
Oui, bien, c'est sûr que c'est devenu une nouvelle opportunité, surtout quand on voit une baisse là, de la demande du taxi du traditionnel. Vous le dites dans votre enquête, c'est 1230 emplois indirects, puis il y a aussi des emplois directs importants en première ligne. Bon, alors, on le sent très bien.
1800 personnes, 1800. Probablement, au total.
Au total, exact. OK. Bon, ça fait travailler du monde. Pensez-vous, et là je m'adresse à tout le monde, y compris Francis Fortier, pensez-vous que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? Là? Si on se disait, c'est pas juste ce qui existe en ce moment, là, mais si on en mettait plus, ça serait-tu profitable économiquement? Peut-être Francis Fortier.
Oui, en fait, très rapidement, je pense que oui. Puis pour répondre en partie à la question, est-ce qu'à long terme, ça va être viable? Je pense qu'en partie par M. Poulin, ça a été avancé. C'est l'idée de la logique que les personnes vont dépenser. Peu importe, cette logique-là, c'est pas simplement la dimension d'aller travailler, c'est la dimension aussi de dépenser. Mm-hmm. Et je pense que l'idée aussi, la dimension de l'école, de l'accessibilité à l'école, je pense qu'il va falloir investir beaucoup plus large. Et je sais que présentement, le Conseil supérieur de l'éducation travaille sur une école, la logique d'une école inclusive.
Ah oui.
Et je pense qu'il faudrait commencer.
C'est à surveiller.
Ça risque de sortir au courant de l'année. Donc, il y a peut-être quelque chose.
On refait une émission là-dessus. On vous réinvitera. Merci beaucoup, Francis Fortier, chercheur à l'IRIS. Merci, Serge Poulin, directeur du RUTA Montréal. Merci beaucoup, Serge.
Ben, c'est un plaisir, Benoît. Je suis toujours disponible pour...
Parfait. Marc-André Varin de la TUC. Merci à tout le monde.
Vous écoutez Accès libre.
À la claire fontaine, m'en allant promener, je l'ai trouvé à sec, mais pas pu m'y baigner.
par terre, me suis mise à pleurer, et d'une demi tord un rosier. Le rossignol sauvage est venu s'y percher. Belle demoiselle, dites vite, dites quand embarquerez-vous dans ma barque, vous dans mon camp, dites quand. Belle demoiselle, dites vite, dites quand, car il est temps, plus que temps, de choisir son camp. Le rossignol sauvage, il s'est mis à chanter. L'eau de la claire fontaine était si convoitée. On l'a vendu aux plus riches dans de lointaines contrées. Choses changées, une rose entre les dents, les manches relevées. Belle demoiselle, dites vite, dites quand embarquerez-vous dans ma barquerie-vous dans mon camp, dites quand. Belle demoiselle, dites vite, dites quand, car il est temps, plus que temps, de choisir son cœur.
Question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
À chaque émission, on vous invite autant que possible à entendre un essai ou un récit à caractère historique ou même un roman, comme aujourd'hui, qui propose une fiction qui donne à réfléchir. Le livre présenté est disponible en version audio grâce à Vues et Voix. Rappelons que si vous présentez une déficience visuelle ou encore si vous avez des difficultés liées à l'apprentissage, vous pouvez profiter de ces versions adaptées. Je vous invite à entendre le quatrième de couverture de L'Orangerie de Larry Tremblay, publié chez Alto, enregistré en version audio par Vues et Voix.
Quand Ahmed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Ahmed rit aussi. Ses frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à l'ombre des orangers. Mais un obus traverse le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre s'empare de leur enfance et sépare leur destin. Des hommes viennent réclamer vengeance pour le sang versé. Ahmed, à moins que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus grand des sacrifices. Et tous paieront le tribut des martyrs, les morts comme ceux qui restent. Larry Tremblay frappe encore un grand coup, mais vise cette fois le cœur, laissant au lecteur le soin de départager les âmes pures des fourbes, les fanatiques des héros. Un texte à la fois actuel et hors du temps, qui possède la force brute des grandes tragédies et le lyrisme des légendes du désert. Larry Tremblay est écrivain, metteur en scène, acteur et spécialiste de Katakali. Traduite dans une douzaine de langues, ses œuvres théâtrales ont été produites dans de nombreux pays et maintes fois récompensées. Il a publié en 2006 un recueil de récits, Pursing, aux éditions Gallimard, et son roman, Le mangeur de bicyclettes, 2002, a été finaliste au prix littéraire du gouverneur général du Canada. Ses pièces, The Dragonfly of Chicoutimi, Le ventriloque, Abraham Lincoln va au théâtre et La hache, font désormais figure de classique. Le Christ obèse, roman paru chez Alto en 2012, a été finaliste au prix littéraire des collégiens.
L'Orangerie, par l'auteur Larry Tremblay, publié chez Alto, rendu disponible grâce à Vues et Voix, vous est possiblement prêté, si vous le souhaitez, par le truchement de son service québécois du livre adapté, le SQLA, de la BANQ. Entendez maintenant le chapitre 1.
Si Ahmed pleurait, Aziz pleurait aussi. Si Aziz riait, Ahmed riait aussi. Les gens disaient pour se moquer d'eux, « Plus tard, ils vont se marier ». Leur grand-mère s'appelait Shannon. Avec ses mauvais yeux, elle les confondait tout le temps. Elle les appelait ses deux gouttes d'eau dans le désert. Elle disait « Cessez de vous tenir par la main, j'ai l'impression de voir double ». Elle disait aussi « Un jour, il n'y aura plus de gouttes, il y aura de l'eau, c'est tout ». Elle aurait pu dire « Un jour, il y aura du sang, c'est tout ». Ahmed et Aziz ont trouvé leurs grands-parents dans les décombres de leur maison. Leur grand-mère avait le crâne défoncé par une poutre. Leur grand-père gisait dans son lit, déchiqueté par la bombe venue du versant de la montagne où le soleil, chaque soir, disparaissait. Quand la bombe est tombée, il faisait encore nuit. Mais Shannon était déjà levée. On a retrouvé son corps dans la cuisine. Page 12. Qu'est-ce qu'elle faisait en pleine nuit dans la cuisine ? A demandé Ahmed. On ne le saura jamais. Elle préparait peut-être un gâteau en secret, a répondu sa mère. Pourquoi en secret ? A demandé Aziz. Peut-être pour faire une surprise, a suggéré Tamara à ses deux fils en balayant l'air de sa main comme si elle chassait une mouche. Leur grand-mère Shannon avait l'habitude de parler toute seule. En fait, elle aimait parler à tout ce qui l'entourait. Les garçons l'avaient vue interroger les fleurs du jardin, discuter avec le ruisseau qui coulait entre leurs maisons. Elle pouvait passer des heures courbée sur l'eau pour lui chuchoter des mots. Zoal avait honte de voir sa mère se comporter de cette façon. Il lui reprochait de donner un mauvais exemple à ses fils. « Tu agis comme une folle !» lui criait-il. Shannon baissait la tête, fermait les yeux en silence. Un jour, Ahmed a dit à sa grand-mère « Il y a une voix dans ma tête. Elle parle toute seule. Je n'arrive pas à la faire taire. Elle dit des choses étranges, comme s'il y avait une autre personne cachée en moi, une personne plus grande que moi. Raconte-moi, Ahmed, raconte-moi les choses étranges qu'elle te dit. Je ne peux pas les raconter. Je les oublie au fur et à mesure. » C'était un mensonge. Il ne les oubliait pas. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking, then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, he come and tell me everything is all right. He kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, Lord, he was.
Yes, he was.
How will I remember?
Question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
C'est la semaine de la déficience intellectuelle et il y a toutes sortes de beaux événements, de belles réalisations qui sont promues. Le lancement du 15 mars prochain en est un. C'est celui d'un livre qui s'intitule « Maître de l'inclusion sociale ». Visionnaire et bâtisseur d'une société plus juste, c'est un ouvrage collectif qui a été réalisé avec Simplicom et la gang à Rambrou. Et donc, si vous entendez bien ces deux organisations, eh bien, ça veut dire d'abord que Suzanne Beaulieu est avec nous. Bonjour, bonjour Suzanne Beaulieu.
Bonjour.
Rappelons que vous êtes directrice de la gang à Rambrou et Sylvie Ravel, directrice de Simplicom.
Oui, bonjour, coordonnatrice des projets chez Simplicom.
Ah, coordonnatrice des projets, bon. Mais il reste que c'est souvent le nom qu'on voit attaché à quelques projets à Simplicom. Peut-être que les gens qui ont fait appel à vous le savent. Donc, ce livre-là, il est important, il veut valoriser plein de gens qui ont travaillé très fort pour mettre de la lumière sur la déficience intellectuelle. Suzanne Beaulieu, dites-nous de quoi il s'agit ce livre-là qui va être lancé cette semaine.
Dans le fond, on honore 155 personnes environ.
Ah oui?
Exactement, 155 personnes qui ont été maîtres d'œuvre en inclusion sociale. Mm-hmm. Ces personnes-là ont joué un rôle crucial. On n'en serait pas là aujourd'hui si ces personnes-là n'avaient pas existé puis si c'était pas mobilisé pour développer l'inclusion sociale puis bâtir des projets dans leur communauté, mm-hmm. partout au Canada.
Et donc, ah oui, alors c'est des gens qui ont été identifiés. Comment d'ailleurs?
Je vais laisser Sylvie répondre comment oui, on les oui. a identifiés.
Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a fait un appel à tous auprès de tous nos réseaux qui œuvrent en inclusion.
Ah oui.
Par la suite, on a fait aussi une recherche dans différents réseaux mm-hmm. web, des plateformes web où il est question d'inclusion. Mm-hmm. Et on a fait une recherche spécifique auprès de l'Association canadienne pour l'intégration communautaire parce que avec ce réseau-là, on pouvait toucher à toutes les provinces et à tous les territoires mmh. du Canada. Donc, c'est intéressant
oui. de pouvoir retracer tous ces gens-là parce que vous êtes intéressé particulièrement à la francophonie ou vous avez même débordé
les deux,
la francophonie?
Les deux mondes. Sont unis dans l'inclusion.
Ben donc, la patrie de tous et toutes, c'était la déficience intellectuelle ou juste l'inclusion?
C'était la déficience intellectuelle.
Okay, particulièrement.
Et l'inclusion.
Bon, c'est très beau, en fait. On voit sur la page couverture, trois personnes, on met en valeur, j'oserais dire, la personne humaine, le regard, on voit les têtes, en tout cas, c'est ce que je sens. Puis, est-ce que c'est fait par quelqu'un de la gang à Rambrou?
Oui, c'est par Cecilia Diniro,
ah oui.
qui est une artiste chez nous, qui a peint ce tableau-là il y a 2 ans, mm-hmm. qui a été exposée à d'un œil différent l'année dernière.
Donc, tout est lié, là. On va lancer ça dans le cadre de l'exposition Un œil différent
ouais.
À Montréal. Et une des artistes qu'on a pu voir au cours de ces années, ben, elle a réalisé la page couverture.
À l'intérieur, il y a d'autres peintures de nos gens.
Ah oui.
Qui sont malheureusement pas en couleur parce que les coups
deviennent
faramineux.
Mais l'important, c'est ça, c'est de présenter les gens au-delà de... C'est pas juste une œuvre, là. On essaie de mettre en valeur l'histoire des personnes.
Exact. Mmh. Ouais.
Et pourquoi vous avez décidé de faire ça à la gang en Rambrou? Est-ce que c'est parce qu'on les connaissait pas, ces personnes-là, ou les gens avaient envie de les remercier d'une manière particulière, ou...
Bien, un peu tout ça, dans le fond, dans le contexte économique actuel,
oui.
où c'est un peu banalisé, l'inclusion, ça l'a passé dans le collimateur de l'austérité.
Ouais.
C'était important pour moi de dire qu'il y avait des gens qui avaient existé, qui existent encore, puis qui ont cru très fort. Et il fallait le montrer haut et fort que ces gens-là sont là.
D'ailleurs, faut dire que c'est préfacé par Annick Larose, qui était avec nous un peu plus tôt. Oui. J'aimerais préciser que ce livre-là est disponible en, j'allais dire, quatre langues.
Quatre versions.
Ah, quatre versions, oui, c'est mieux de le dire ainsi. C'est pour ça que je demande la question, ou je pose la question à Simplicum, parce que vous êtes les spécialistes du livre adapté.
En texte simplifié.
Ah, voilà. Expliquez-nous un peu ce que c'est.
Le texte simplifié, on sait qu'aujourd'hui au Québec, il y a peut-être une personne sur deux qui a des difficultés à comprendre les communications, qu'elles soient écrites ou même qu'elles sont destinées au grand public. On trouve que chez Simplicom, c'est important de donner l'accès à l'information.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'on a développé cette méthode-là du texte simplifié. C'est la même information que le texte standard, mais c'est une syntaxe plus simple et un vocabulaire plus familier. Puis ce sont des textes faciles à comprendre. Oui. L'essentiel est là et ça permet aux personnes qui ont des difficultés de lecture ou une incapacité intellectuelle d'avoir accès à ces histoires, au contenu du livre « Les maîtres de l'inclusion ».
Puis, ce qui est heureux, en fait, c'est qu'avec le texte simplifié, je trouve qu'on a, on fait une pierre deux coups. Parce que non seulement on donne accès à l'information, mais en plus, ça devient des outils intéressants pour l'alphabétisation, pour les gens qui veulent accéder à la langue, bien la maîtriser ou de mieux en mieux la maîtriser. Donc, j'imagine qu'il y a plein de groupes en alpha qui vont recevoir très content ce livre qui s'intitule « Maître de l'inclusion sociale, visionnaire et bâtisseur d'une société plus juste ». Alors, juste pour que vous me disiez, vous allez lancer ça cette semaine, c'est ça? Ça sera disponible dès cette semaine?
Jeudi, le 15 mars, c'est le lancement du livre. Et plus tard, après le lancement, on va préparer, développer une plateforme web.
Ah oui?
Parce que ces livres-là vont être accessibles en format numérique.
Bien sûr.
Donc,
vous n'allez pas oublier le format doc, hein?
Non. L'a bien entendu.
Alors, oui,
parce qu'évidemment, le PDF, ce n'est pas accessible pour tous les yeux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous allez le rendre parfaitement accessible.
Oui, les quatre versions. Oui, voilà. Parce que c'est anglais-français.
Bon, oui, c'est important de le rappeler, anglais-français.
Anglais simplifié aussi.
L'anglais simplifié. C'est rare, d'ailleurs, qu'on diffuse en anglais simplifié au Québec.
C'est très, très rare. Ça nous est arrivé chez Simplicom avec l'Ombudsman de Montréal. Le site web de l'Ombudsman de Montréal est présenté en anglais, en plusieurs langues, en une quinzaine de langues, dont le français simplifié. Donc, ça, c'est nous qui avons fait ça. Mais pour le projet, ce projet-là, ce qui a été un grand défi, c'est de trouver une équipe importante de traducteurs anglophones. Parce que c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup 155 petites bios, c'est beaucoup de mots, beaucoup de textes. Donc, on a dû faire appel à une équipe de traducteurs anglophones, ça nous a bien, bien soutenus.
Puis pour que les gens comprennent, là, c'est parce que simplifier un texte, là, faut réfléchir, avoir un esprit de synthèse extraordinaire, là, vraiment mettre que les mots qui sont essentiels.
Exactement.
C'est long, là, c'est plus long qu'une traduction usuelle. Il faut réfléchir, il faut même parfois se mettre plusieurs cerveaux là, pour se dire, ah, est-ce qu'on met simple ou est-ce qu'on met pas compliqué ou enfin bref.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Bon, d'ailleurs, on peut, à tous ceux et celles qui souhaiteraient être mieux entendus, qui font des textes, on peut avoir recours à Simplicom. Comment d'ailleurs?
On a des coordonnées, on est sur le site web.
On l'ajoutera sur notre page. OK. En terminant, je vais donner la parole à Suzanne Beaulieu, qui est quand même instigatrice avec d'autres du projet.
Avec Simplicom.
Avec Simplicom, OK, bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de valoriser ces gens-là? Est-ce que vous pensez qu'on ne les connaît pas bien, ces personnes-là?
Oui, je pense qu'on les connaît pas bien. Ils sont en train de passer aux oubliettes.
Oui.
Plusieurs d'entre eux ont été mes maîtres à penser et ont aidé à ma pratique. Et puis, je trouvais que c'était important de les faire connaître. C'est important aussi pour les personnes handicapées intellectuelles de connaître leur histoire.
Oui.
Puis là-dedans, ils la retrouvent.
Peut-être que vous pourriez nommer quelques exemples, et je dis ça, là, c'est pas exclusif, là, mais qui on retrouve dans ce livre-là?
Bon, dans les personnalités connues, Maître Jean-Pierre Ménard,
ah oui.
Louise Archambault, la réalisatrice qui a fait faire des bons immenses avec le film Gabriel,
oui, le film
la
Gabriel.
Comédienne Gabrielle Marion Rivard, des parents, Louis Simon, Noëlla Douglas, qui était la première qui a fait la troupe, pourquoi pas nous, la première troupe de théâtre à Montréal.
Ah, ça, c'est important.
Et les Jeux olympiques spéciaux aussi.
Et moi, j'ajouterais Thérèse Collin, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui était une des voix fortes là, pour faire comprendre les besoins des personnes qui ont déficience intellectuelle à Montréal, entre autres. Écoutez, mesdames, bravo pour ce livre qui sera lancé le 15 mars prochain, qui s'intitule « Maître de l'inclusion sociale, visionnaire et bâtisseur d'une société plus juste ». Donc, il est possible d'y aller. Où exactement ce lancement?
C'est à l'Écomusée du Fier-Mondre, au 2050 rue Amherst.
Et en plus, au détour, on peut regarder cette exposition d'un œil différent. Merci Suzanne Beaulieu, directrice de la gang à Rambrou.
Merci.
Merci Sylvie Gravel, coordonnatrice de projet à Saint-Pierre.
Et vous êtes bienvenue jeudi.
Oui, merci.
Question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
Et continuez de répondre à la question sur canalm.vusevoix.com ou aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, même si ça vous chante, parce que c'est une question qui est souvent soulevée. Tous ces investissements pour l'accessibilité, est-ce que ça a des retombées économiques? Et c'est heureux parce qu'on a eu plusieurs points de vue aujourd'hui et on vous lit aussi, vous en avez sur les réseaux sociaux. D'abord, Joanne Ouellette qui nous écrit le commentaire suivant. « Je pense à un sujet en particulier, l'accessibilité en emploi. Si les employeurs seraient mieux sensibilisés, peut-être en ayant des accès à des programmes encore plus flexibles, plus de personnes à mobilité réduite auraient accès à un emploi. » Trop de personnes ayant la possibilité et le désir de travailler se heurtent à des portes fermées et ça a un coût important pour la société. Il y a, pour nous ramener ça un peu sur les droits, Lisa D'Amico, puis Anne-Marie Allaire fait un commentaire dans le même sens aussi. Oui, et plus encore si les personnes handicapées ne subissaient pas les non-droits, les privatisations, les interdits du programme de la solidarité sociale sans s'y restreindre et qu'elles pouvaient réaliser leur potentiel au maximum, tant en matière de vie privée que professionnelle. Anne-Marie Allaire, je vous avais promis, elle ajoute « Moi, j'aurais plutôt tendance à répondre que je ne suis pas un budget, mais une personne qui cherche à être libre partout. Je n'ai pas à justifier d'être handicapée. » Continuez de mettre vos commentaires. Merci aussi aux gens en table ronde qui sont venus nous éclairer sur ce sujet. Vous savez d'ailleurs, c'est une habitude, à chaque semaine, on se propose de répondre à une question et c'est impossible si vous interagissez pas avec nous. Alors, merci de le faire. Vous savez, cette émission vous permet de rencontrer toutes sortes d'intervenants. Sur la page que vous visitez peut-être en ce moment, canalm.visevoix.com, on y met les liens vers les intervenants, vers les causes que vous pouvez continuer de défendre. Merci à l'équipe qui a permis de faire cette émission. Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine. Célébrons ensemble la différence intellectuelle comme un autre accès libre.